Radio Spirale. En janvier 2013, la librairie Pauline recevait Céline Fortin et Paul Bélanger pour une discussion autour de ce qui les rassemble, à savoir la poésie et le travail d'éditeur. L'occasion était belle de revenir sur l'histoire des éditions du Nord-Roi que Fortin a cofondée et que Bélanger a plus tard dirigée, mais aussi de réfléchir à l'acte même de la création poétique. La rencontre était animée par Louise Dupré.
Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Pierre Ménard. Je suis responsable de la salle de la librairie Pauline, la salle de conférence. On aime vous voir, mais vous n'êtes pas nécessairement venu m'entendre. Vous êtes venu entendre nos conférenciers. Et ce soir, c'est une collaboration. Au moins une fois par année, sinon plus, on fait une collaboration spéciale avec la Maison des éditions du Nord-Roi. Et pour vous en parler, qui de mieux que celui qui l'a cofondé avec Mme Fortin, qui connaît très bien nos invités de ce soir et qui connaît le monde du livre, qui est engagé depuis quelques années, je crois, dans le monde du livre et très engagé, M. René Bonenfant, qui va nous présenter la soirée de ce soir. Que je vous demande d'applaudir parce que son travail est très méritant.
Alors, voilà, effectivement, comme disait monsieur, ça fait un certain nombre d'années, effectivement, que je suis dans le bain de l'édition. J'arrive pas à le quitter, d'ailleurs, comme chacun sait, peut-être. En tout cas, toujours est-il que... Alors, je vous présente nos invités de ce soir. En fait, je vous dis d'abord quelques mots au-dessus, au sujet du Nord-Roi. Comme vous savez tous, sans doute, en 2011, donc il y a 2 ans ou presque, le Nord-Roi a célébré son 40e anniversaire de fondation. Céline et moi avons fondé le Nord-Roi en 1971. Les années ont passé très, très vite, jusqu'en 1991, où nous avons eu la chance et le bonheur de passer le flambeau à quelqu'un qui, je pense, a fait un excellent boulot depuis avec sa petite équipe. Nous étions nous-mêmes une très petite équipe et Paul continue avec une très petite équipe à faire, enfin, à faire, je pense, un excellent boulot. On est très heureux, nous, comme fondateurs, de voir que le Nord-Roi est toujours présent. Fait toujours, à notre avis, on est très objectif, mais un excellent travail. Et la preuve, je pense que le Nord-Roi accumule non seulement les bons recueils, les beaux recueils, les excellents recueils, mais aussi les prix. Alors voilà. Donc, vos invités de ce soir, alors Céline Fortin, donc, qui est, là aussi, je suis très objectif, excellente poète, mon épouse, excellente épouse. Alors, ça va être dit à la radio, ça devrait me valoir quelque chose. Alors, donc, Céline qui vous parlera de son dernier recueil, enfin, paru dans la collection L'Oval, Femme infrangible, qui fait écho un peu à Femme fragmentée, qui était son premier, qui, Gaston Miron disait, « Toi, tu es une femme fragmentée, moi, je suis un homme rapaillé. » Donc, ils arrivaient à trouver un terrain commun. Louise Dupré, qui sera l'animatrice de cette soirée. Donc, Louise, vous la connaissez bien, c'est une poète bien connue qui a gagné, entre autres, le prix du gouverneur général et qui connaît la poésie, enfin, d'une façon assez poussée, je crois. Elle en a fait même carrière. Et enfin, Paul, dont j'ai dit 2 mots, qui lui aussi est poète. Et donc, ce soir, vous aurez l'occasion d'entendre un poète éditeur et une ex-éditrice, mais poète aussi. Et donc, ben, je vous laisse avec... vos invités, nos invités.
Elle n'est pas ex. Travaille encore en édition.
Elle travaille encore.
En édition.
Alors, bonsoir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'animer cette rencontre de ce soir avec Céline Fortin et Paul Bélanger. Sous le thème de éditeur et poète, parce que les deux invités sont éditeurs et aussi poètes. Alors, je vais d'abord vous les présenter. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous les connaissez fort bien, mais j'aimerais aussi que tout le monde puisse connaître leur parcours et ceux et celles qui nous écouteront sur Radio Spirale. Alors, Céline Fortin, a publié depuis 1982 plusieurs recueils de poésie, des livres d'artistes, des contes et des récits. Aux éditions du Norrois, mentionnons « Femmes fragmentées » en 1982, « L'ombre des cibles » en 1984, « Au cœur d'un instant » en 1986, « D'elle en elle » en 1989, « Les intrusions de l'œil » en 1993 et « Un ciel laiteux » en 2008. Chez Langto Éditeur, elle a publié « Chanterelle » en 2000 et aux éditions « Des heures bleues »,« Commandements, litanie et autres imprécations » en 2003. Une anthologie de sa poésie intitulée « Femmes infrangibles » qui a été préparée et introduite par Jean Chapdelaine Gagnon a été publiée l'automne dernier aux éditions du Norrois. Céline Fortin est aussi artiste visuelle. Elle compte de nombreuses réalisations et expositions, dont une rétrospective de ses livres et de ses livres d'artistes à la Sarre et à Sorel en l'an 2000. En 1971, elle a fondé avec René Bonenfant les éditions du Norrois, qu'ils ont dirigées jusqu'en 2001. Depuis 2003, elle dirige la collection « Le Dire » aux éditions « Les Heures Bleues ».
Elle a dirigé jusqu'en 1991 à
1991, excusez-moi.
C'est Paul qui a pris le 91 la relève. Jusqu'à mai.
Oui, voilà, donc j'aurais voulu que tu demeures plus longtemps, peut-être. On appelle ça un lapsus. Paul Bélanger maintenant. Alors, depuis Projet de Pablo en 1988, Paul Bélanger a publié plusieurs livres de poésie et de prose. Notons, aux éditions du Norrois, Retour, suivi de Minuit l'aube en 1991, Périphérie en 1999, Fenêtre et ailleurs, publié en 1996 et réédité en 2002, Origine des Méridiens, qui a été finaliste à 3 prix de prestige au Québec, dont le prix du gouverneur général. Répit, qui a obtenu le prix Alain Grandbois de l'Académie des Lettres du Québec. Et le tout dernier, paru à l'automne 2012, Repli, Chambre de l'Arpenteur. Il a aussi publié « Les jours de l'éclipse » en 2003 aux éditions Québec-Amérique, qui a été un finaliste au prix du gouverneur général et qui a eu une mention d'excellence de la Société des écrivains canadiens, et « Le passeur du Palais des ombres », cahier de Fernando Pessoa à Montréal en 2010 aux éditions du Silence. Il a dirigé 3 ouvrages collectifs au Norrois dans la collection Traverse, sur la poésie de Saint-Denis Garneau en 2004, d'Hélène Dorion en 2004 et sur l'œuvre de Coscrow en 2012. Sa poésie est parue dans plusieurs anthologies au Québec et ailleurs. Elle a été traduite en anglais, en espagnol et en portugais. Paul Bélanger est directeur littéraire des éditions du Norrois depuis 1991. Alors, je vois la rencontre de ce soir vraiment comme une conversation. C'est une rencontre historique parce que beaucoup ici, vous ne connaissez pas les éditions du Norrois aussi profondément que certains qui étaient là depuis les tout débuts. Je pense par exemple à Denise Desautels qui a commencé à publier aux éditions du Norrois très, très tôt. Et c'est l'occasion pour nous de savoir d'abord comment les éditions du Norrois ont débuté, comment elles se sont constituées et quelle est la posture d'éditeur-poète, est-ce qu'on le vit dans la complémentarité ou si c'est par moment un conflit? Donc, on veut tout savoir. Alors, ma première question va à Céline. Tu étais artiste visuel avant d'être poète. Alors, j'ai été très surprise en lisant l'entretien que vous avez eu, Paul Bélanger et toi, dans le bulletin du Norrois de l'automne 2012. Surprise parce que je ne savais pas que tu avais commencé par les arts visuels avant d'écrire de la poésie. Et j'ai été encore plus surprise de savoir qu'une artiste visuelle fonde une maison d'édition. Alors, est-ce que tu peux nous en parler?
Ah, ça doit être une question d'amour, ça. Alors, bien, René et moi, on s'est mariés, on a fondé une famille, et René était plus du côté littéraire, et moi, effectivement, j'étais plus du côté des arts, ayant été pendant 3 ans chez le frère Jérôme le soir, et à la suite de ça, j'ai fait quelques expositions, et quand on était mariés, j'ai fait d'autres expositions. L'histoire, c'est que René étant travaillant à l'Université de Montréal, bien, c'est un milieu où on peut rencontrer des futurs auteurs. Et à ce moment-là, il travaillait avec Alexis Lefrançois. Et Alexis disait, bon, je voudrais publier, mais et tout. Et René et moi, on s'était dit, ça serait intéressant, comme René était déjà dans le monde de l'édition, on s'était dit, ça serait intéressant pour consolider peut-être le couple, des fois pour faire autre chose que juste l'amour. Alors, on a décidé de fonder une maison d'édition. On voulait fonder une maison d'édition, sauf que c'était pas prévu aussi rapidement. Mais là, quand Alexis Lefrançois est arrivé avec son projet de livre et tout, bien, on a plongé. Et bon, c'est comme ça qu'est parti le premier livre et qu'on a fondé les éditions du Norrois. Ce qui est amusant, c'est que bon, le premier recueil, comme toujours, quand on fonde une maison d'édition, tout le monde en parle, tout le monde était très content. Ce qui a amené des gens à vouloir nous rencontrer. Et le deuxième, c'est Jean Charlebois, puis il est venu frapper à la porte avec son manuscrit. Et bon, c'est comme ça que c'était dans les deuxièmes auteurs. Et finalement, bien, on connaît la suite. On a été éditeurs, René et moi, jusqu'en 91. Et puis là, on a laissé le Norrois à Paul.
Alors, Paul, donc, en 1991, tu acceptes
après une grande réflexion,
le flambeau.
J'étais pas tout seul. Hein?
Vous étiez trois.
Oui, voilà.
Alors, peux-tu nous parler de cette période-là? Qu'est-ce qui t'a amené à...
Ben, assez curieusement, ce qui m'a amené, j'étais là depuis longtemps sans le savoir, en quelque sorte, puisque les premiers livres publiés par le Norrois, je les connaissais, j'étais lecteur de poésie, et ça m'avait tout de suite intéressé de voir leurs livres avec leur facture si particulière, si belle, en lien avec les arts visuels qui était un projet de la maison, et notamment un petit livre, 36 petites choses pour la 51, d'Alexis Lefrançois, justement un livre en forme d'autobus. Alors si vous trouvez ça aujourd'hui, c'est très très rare, c'est dans les livres rares. Alors il y avait toujours une corrélation comme ça entre le livre et comme objet et le poème, et les poètes que le Norrois publiait m'intéressaient, que ce soit Geneviève Amiot, Michel Beaulieu, Jacques Brault, la liste quand même très longue. Et donc, je me suis rendu compte l'année passée, en 2011, que finalement, je connaissais, avant d'entrer au Norrois, je connaissais le catalogue, j'avais pas tout fréquenté tous les auteurs assidûment, là, c'est pas ça que je veux dire, mais j'avais une connaissance du fonds d'édition qui était assez pointu, ma foi. C'était comme une surprise, une révélation. Et en 91, donc, René nous approche un soir de lecture. On lisait à Skoll, je crois, avec Élise Turcotte, avec d'autres jeunes poètes. Et nous offre comme ça une rencontre à Québec pour transmettre le flambeau, en quelque sorte, de la maison. Et nous nous sommes retrouvés, Hélène Dorion, moi et Claude Prudhomme, à ce moment-là, à Québec, pour cette rencontre. Et ça s'est fait tout naturellement de cette façon-là. Je dois dire d'abord que j'ai réfléchi quelques semaines avant de plonger. parce que j'étais plein de doutes. Je ne me destinais pas comme tel dans ma tête au monde de l'édition de façon formelle. Peut-être à l'accompagnement des poèmes et des poètes, oui, ça m'a toujours intéressé, que ce soit dans la création ou du point de vue critique, mais pas comme éditeur. Je ne me voyais pas comme éditeur. Comme lecteur, oui, parce que déjà Céline et René me donnaient parfois des manuscrits à lire. Et c'était une marque de confiance que j'appréciais beaucoup. J'ai également été faire un inventaire à l'entrepôt, donc des basses tâches de l'édition, comme on dit. Je les ai faites aussi. L'inventaire, j'aime pas beaucoup cette chose-là, mais néanmoins, ça nous apprend beaucoup de choses sur ce que contient une maison d'édition. Donc, en 91, voilà, j'ai sauté dans le bain avec toutes les incertitudes que j'avais, mais en même temps avec... Céline le disait, avec l'amour du poème, avec l'amour de la poésie, avec la volonté que cette maison que je mets puisse continuer et arriver jusqu'à aujourd'hui, quoi.
On sent que depuis plus de 40 ans maintenant, les éditions du Norrois ont eu une politique éditoriale. C'est peut-être... Le terme est peut-être trop fort, mais il y a quand même une continuité dans l'esprit norrois. Quand tu as pensé à la nouvelle équipe, à Paul, à Hélène, à Claude, et quand René et toi, vous avez pensé en termes de continuité, sans doute. On ne donne pas les clés d'une maison d'édition à n'importe qui, parce qu'on veut transmettre quelque chose.
Oui.
Qu'est-ce qui est important pour vous de transmettre?
Bien, Hélène et Paul étaient des auteurs de la maison. Alors, comme ils étaient des auteurs de la maison, on aimait ce qu'ils faisaient et tout. Mais l'idée, c'était, il y en avait d'autres qui nous aimaient et qui auraient probablement aimé aussi être nos successeurs. Sauf que quand on est éditeur, il faut avoir une part d'abnégation. C'est-à-dire, des fois, penser plus à l'autre qu'à sa carrière ou à sa propre publication, ses propres publications. Et là, on trouvait avec Paul, avec Hélène, avec Claude... Nous, on était deux aussi. Et là, on se disait, c'est pas possible qu'il y ait juste une personne qui le prenne. Alors, on voulait confier à une équipe, une petite équipe, comme nous, on était deux, puis avec des lecteurs. Mais là, on voulait... Alors là, on voyait qu'avec Paul, Hélène et Claude, ils nous offraient cette possibilité de continuer comme on avait commencé. Et on avait assez dit, je pense, Paul, on avait assez dit qu'on voulait que ça soit la poésie en premier.
Oui.
Éventuellement, on pourrait grossir. Nous, on a laissé parce que là, le Norrois devenait gros, mais on ne gagnait pas notre vie avec ça. René est obligé d'aller faire de l'édition générale, l'édition dans les autres maisons. Et on était rendu en dernier, on faisait 18 livres à deux. Alors, c'était devenu lourd, puis c'est presque tout notre temps passé là, plus le temps que René travaillait. Alors, on se disait, il faut qu'il y ait comme une équipe pour pas qu'il y ait juste une personne qui le prenne. Mais en même temps, on savait que juste la poésie, ça fait pas vivre la personne. Alors, comme chacun avait déjà des ressources, chacun pouvait avoir des ressources et à part du Norrois, ben on a décidé que c'était la meilleure équipe pour continuer ce qu'on voulait faire, dans l'esprit qu'on voulait faire, de la poésie avant tout. Bon, nous, on avait commencé le livre d'artiste. J'avais continué un petit peu, mais c'est devenu...
La conjoncture a changé à ce moment-là, parce que les collectionneurs... Et moi, je n'avais pas d'expertise non plus énormément là-dessus. Le dernier livre d'artiste vraiment qu'on a fait, c'est celui d'Hélène. Bleu, l'empreinte du bleu avec Marc Garneau.
Mm-hmm.
Et il en reste encore d'ailleurs.
Mm-hmm.
Donc, moi, je n'avais pas d'expertise sur la connaissance d'un réseau de collectionneurs. Mais tu as raison, on s'entendait complètement là-dessus. C'était d'abord la poésie. C'est d'ailleurs toujours d'abord la poésie. Le fond, Bon, on a ouvert la collection avec le temps, quelques collections avec le temps, sur l'essai, parce que ça, c'est une volonté qu'on avait en prenant le Norrois. On voulait que les poètes se commettent aussi dans la pensée, dans la réflexion, dans la, appelons ça la pensée du poème, et plus largement peut-être des éléments qui concernent peut-être la société, la vie, mais toujours liés à la création ou à la poésie. Et bon, il y a peut-être une quinzaine de titres dans la collection maintenant, et c'est une collection dont je suis très content parce qu'elle remplit l'intuition qu'on avait à ce moment-là, c'est-à-dire de permettre à des poètes tout à coup de sortir de la poésie et d'emprunter ce qu'on peut appeler un chemin d'accompagnement du poème dans la réflexion, mais toujours lié de très proche à la création. Donc on a été dans la continuité, je pense, de ça. J'ai ajouté quelques éléments plus tard, dans les années 2000, une collection dédiée aux lieux, mais c'est encore là, c'est une collection très particulière. Elle est dédiée à la prose, mais peu importe ce que je peux en dire, elle se retrouve toujours dans le rayon de poésie. Donc, c'est le Norrois est un joueur marqué. mais bon, il reste que c'est le bonheur, tout simplement, de la poésie. Alors, je pense qu'on a travaillé vraiment dans ce sens-là, dans la continuité. Je me souviens d'ailleurs, en prenant le Norrois, qu'une de mes premières préoccupations, c'était d'appeler Jacques Brault, parce que c'était quand même un symbole déjà pour la maison, et je me disais, on peut pas continuer si Jacques Brault nous donne pas son accueil, en quelque sorte. Et Jacques a été d'une générosité extraordinaire. Il nous a donné par la suite plusieurs livres, dont un essai fabuleux qui s'intitule « Au fond du jardin », qui est vraiment un livre merveilleux de lecteur sur les lectures qui l'ont marqué. Il y a même quelques inventions là-dedans. Et dans La nuit du poème, donc en 2011, c'était pour nous une façon de marquer le temps aussi avec Jacques Brault. Et puis, dans la continuité de la poésie, on voulait également, Hélène et moi, faire des traductions. On trouvait important que les camarades canadiens, anglais, québécois, canadiens, qu'importe, de l'autre langue, trouvent dans l'espace francophone des lecteurs. Alors encore là, on a commencé avec un livre qui était sur la table des manuscrits que René Céline nous avait remis, Jacob Isaac Segal, qu'est-ce que c'est ça, poème yiddish, qu'est-ce que c'est ça, traduction de Pierre Anctil. Je feuillette ça, mais c'était extraordinaire. On voulait faire la collection de traductions et on avait déjà un livre. Donc, il y a de la magie comme ça, des fois, qui arrive, non pas inopinément, je dirais, mais qui arrive parce que il y a une nécessité. C'est le temps de le faire.
Et un autre des buts qu'on avait, on se disait, bon, ça fait 20 ans et c'est une génération. Et là, on avait notre génération qui nous apportait des manuscrits assez souvent, mais on se disait qu'une maison d'édition, c'est des générations, c'est pas juste une génération. Alors, en offrant la maison d'édition à l'autre génération, ben déjà là, eux, ils ont publié des gens de leur génération, et puis peut-être que là, on aura une troisième génération.
Ben c'était l'idée, on a contaminé Patrick Lafontaine.
Oui. Non, mais c'est l'idée que une maison est vivante si elle vit des gens de son temps, de son époque. Mmh. Oh oui. Ça ne veut pas dire qu'on on laisse tomber des vieux.
Ben non, pas du tout.
Mais il faut que elle bouge avec le temps.
D'ailleurs, effectivement, Paul, tu pourrais peut-être nous parler du Norrois depuis que tu as assumé la direction seule après le départ de Claude et d'Hélène. Je crois que c'est en 2000. Mm-hmm. Alors, comment... Là, tu étais seule. Alors, Céline dit que c'était difficile de diriger la maison à deux. Toi, en 2000, tu l'as prise seule. Alors,
oui, alors tu nous en parlais. J'avais beaucoup de craintes avant d'entrer. Et finalement, je suis le dernier à avoir sauté du bateau. La preuve, c'est que j'y suis encore. J'ai beaucoup de mal à me détacher des choses quand je m'y engage. Et c'est toujours pour moi un engagement pour la poésie, donc d'être au Norrois et de faire connaître et de diffuser la poésie. Quelle était la question? À quoi dois-je répondre?
C'est ça. Donc, tu as assumé la direction seule. Oui. Alors, à ce moment-là, tu étais l'homme orchestre. Tu devais faire la comptabilité.
Non, la comptabilité, jamais. Je ne suis pas très bon.
Un peu d'administration.
Oh, forcément, ça. Forcément, même si c'est quelque chose que je n'aimais pas, j'ai dû m'y intéresser. Mais j'avais quand même travaillé en théâtre avant dans un collectif de travail, je dois dire que ça, c'est une expérience qui reste. Parce que dans un collectif de travail, on est obligé de s'intéresser aux états financiers, même si c'est des choses qui nous semblent totalement abstraites. Et à force de fréquenter ces choses, même si je suis incapable de le transmettre, je suis incapable, mais je suis arrivé à comprendre comment ça marchait, et ma foi, ça n'a pas été si mal, puisque j'ai pas mis le noroi dans le pétrin par la suite financièrement. Donc c'est toujours un exercice d'équilibre, tout simplement. Mais je dois dire qu'en 2000, et Suzanne pourra en témoigner, j'étais quand même un peu paniqué avec l'idée de me retrouver avec ces... On était rendu quand même à 500 titres à ce moment-là, à peu près, 400, 500. Et je dois dire que durant un certain temps, je me demandais si c'était pas trop me demander d'assumer ça tout seul. J'ai trouvé cependant immédiatement des ressources, que ce soit Lucie Bélanger ou André Paul pour les deux premières années. Ensuite, les choses se sont déroulées. J'avais fait appel à des lecteurs dont tu étais... David Quentin à Québec, Jacques Brault, mais Jacques, finalement, j'ai jamais donné de manuscrit à lire, mais je voulais pas le déranger. Tout simplement pour avoir une ouverture de la lecture, que je sois pas le seul tributaire, le seul lecteur de la maison. Au contraire, je pense que c'est important pour une maison d'avoir une lecture impersonnelle, en quelque sorte, des œuvres, et donc de multiplier les avis de lecture, c'est toujours une bonne idée. Il se trouve que pendant 10 ans, Hélène et moi, on l'assumait tout simplement pratique tout seul, on était déjà deux, donc c'est déjà un dialogue. Et par la suite, mon souci a été de trouver ces lecteurs-là. Et on avait publié en 96 Patrick Lafontaine, L'ambition du vide, prix Émile Nelligan pour ce livre que je trouve toujours fabuleux. Et Patrick était, comme on dit, dans ma mire de transmission à ce moment-là, parce que je cherchais des lecteurs pour la maison. Et c'est comme ça, tranquillement, que j'ai attiré Patrick dans le bain de l'édition avec beaucoup de bonheur, parce que ça aussi, c'est une autre génération. Je travaille un peu avec la même idée. Et ces années-là, ben c'est sûr que mon travail a été mis en veilleuse. La première année, c'est clair que mon travail a été mis en veilleuse. Là, écrire et assumer la maison d'édition, c'est deux tâches différentes. Mais cependant, j'ai toujours gardé la main depuis 30 ou peut-être 40 ans, c'est-à-dire une écriture quotidienne. Pour moi, ça a toujours été fondamental d'abord de me retrouver dans mes cahiers chaque jour, même s'il ne se passe rien, d'au moins de manifester ma disponibilité à l'écriture chaque jour. Et je pense que cette pratique-là a fait que je pouvais... parce que même quand j'étais débordé, je trouvais le moment, le soir, la dernière heure se passe avec l'écriture. Donc, peu à peu, forcément, on finit par accumuler des choses à notre insu. Et c'est toujours comme ça que j'ai travaillé, en gardant une plage importante. Puis ça, avec Hélène, c'était pareil. L'été, c'était le mois de juillet, c'est pour moi. Et c'est la période où je renouvelle mes vœux. C'est-à-dire que, est-ce que je continue à faire de l'édition? Ben si j'arrête. C'est comme écrire, c'est une liberté. Mmh. On peut toujours choisir, parce qu'on n'en peut plus, pour toutes sortes de raisons, d'arrêter ou de continuer. Je pense que c'est ce qui est merveilleux dans tout le travail de la création, c'est que c'est un acte libre, autant dans l'édition que dans la création. Et je pense que René et Céline seraient d'accord avec moi pour dire que c'est aussi, d'une certaine façon, une façon de vivre. On n'en vit pas richement, tu as raison de le mentionner. Il faut travailler ailleurs, il faut avoir un deuxième métier. Mais enfin, c'est notre lot à tous, comme artiste ou comme écrivain ou comme poète. Comme poète, c'est clair, on est convaincu qu'on ne fera pas d'argent avec ça, donc on fait autre chose en même temps. Mais ça n'empêche rien. C'est une façon de vivre pour moi.
C'est ça que j'allais dire. Si tu m'avais posé la question, qu'est-ce que la poésie? La poésie, genre, en tout cas chez nous, c'est une manière de vivre, tu sais. Ça leur durera pas. Les auteurs venaient et viennent maintenant que on a les heures bleues. On soupe, on mange, on règle des problèmes, on fête la venue du livre. Mais c'est une façon de vivre. C'est comme ça. C'est la poésie est là.
En tout cas, je dirais que ça semble vous convenir parce que vous avez passablement publié tous les deux. Si on se penche sur vos notices bio-bibliographiques, l'édition ne semble pas vous avoir empêché d'écrire.
Non, c'est clair que si l'édition m'avait empêché d'écrire, je ne serais même pas ici pour en parler. C'est-à-dire pour moi, je dirais le contraire. Si j'écrivais pas, si j'étais pas poète d'abord, je ne serais pas éditeur de poésie. Il y a sûrement moyen de gagner sa vie plus honorablement, bien que symboliquement, je trouve qu'on est très riche, que la maison d'édition, un fonds d'édition, je trouve très porteur, très pour le futur aussi. Je trouve que c'est un fonds d'édition extrêmement riche, extrêmement diversifié, qui va dans toutes sortes de directions, mais avec un souci peut-être constant qui est celui de, je dirais, de la reconstruction du sens, non pas la déconstruction du langage. Je pense que ce n'est pas une préoccupation majeure au Norrois. Il y a des œuvres qui ont quand même paru comme ça de ludiques, je dirais. Mais je pense qu'il y a une préoccupation humaniste, dans le fond, qui est la reconstruction du sens, d'être attentif au sens le plus humaniste du terme. Et je pense que ça, c'est une constante dans la maison encore aujourd'hui.
D'ailleurs, tous les deux, dans l'entretien, vous parlez justement que quand on est éditeur et qu'on a des choix à faire, il faut se mettre en retrait comme écrivain. Alors, Céline, tu parles justement d'une censure à exercer, tu emploies le mot de censure, et Paul, toi, de ton côté, tu parles d'une disposition à l'égard d'une autre écriture ou d'une autre esthétique que la tienne. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça, en pratique, quand on reçoit un manuscrit, quand on lit le manuscrit?
Moi, comme j'ai commencé, c'était pas la littérature, même si j'ai eu des prix là, à l'école et tout, mais c'était les beaux-arts, les arts visuels qui m'intéressaient. René, c'était ça. Et peut-être que... La maison d'édition a été fondée en 71 et mon premier recueil est publié en 82. Donc, pendant 10 ans, j'ai comme appris à la lecture des manuscrits et j'ai comme aussi su ce que je voulais pas écrire et ce que je voulais essayer d'écrire. Mais la lecture des manuscrits m'a aidée à savoir. Et puis bon, j'ai toujours été un petit peu féministe, alors là, l'écriture des femmes m'intéressait plus que l'écriture des garçons. C'était comme normal. J'étais plus portée à... Alors, ce qui fait que pendant les 20 ans qu'on était là, on a eu beaucoup de filles qui ont écrit chez nous, qu'on a publié. Alors, puis, ben, avec la façon dont ils écrivaient ou elles écrivaient, et même les garçons aussi, ben, je sais pas. Et c'est sûr que c'est peut-être pas au niveau de l'écriture que je parle de censure, mais c'est au niveau de la projection qu'on fait de soi. On pourrait porter, bon, là, on écrit, puis on veut... Mais là, on a des auteurs. C'est les auteurs qui doivent passer avant nous. C'est l'écriture. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on doit... Je parlerais plus d'abnégation un petit peu que de censure, dans ce sens-là. C'est la projection que l'autre fait, mais même si on n'est pas complètement d'accord avec, mais c'est sa façon de le faire, c'est ce qu'il veut dire. Moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et alors, tu le dis. Mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas la façon du 19e siècle de le dire. Ici, ça ne fonctionne plus. Il y a la façon moderne, la façon d'aujourd'hui de le dire. Et puis là, on voit avec la nouvelle génération qui dit les choses, mais pas comme moi et tout. Alors, c'est ça, le travail d'éditeur, c'est d'être capable d'accepter cette vision de l'autre sans la faire de soi, mais sans imposer soi avant la vision de l'autre.
Oh oui, tout à fait. Je dirais que c'est une écoute d'abord, tu as raison de le mentionner, c'est une écoute à d'autres écritures que la mienne. Ça n'aurait pas de sens de publier juste des choses qui seraient dans cette ambiance-là, disons. Mais j'avais déjà cet éclectisme, disons, pour employer l'expression. J'ai toujours aimé beaucoup de choses très différentes en poésie. De la poésie québécoise, de la poésie du monde, qu'importe, à cause de Michel Beaulieu notamment, qui a quand même été une personne importante dans ma vie par rapport à ça et qui m'a ouvert les horizons sur une diversité de poésie. Alors, la poésie, c'est tous les langages possibles qui ressemblent peut-être pas à ce qu'on pense de la poésie souvent. Et je pense que ça a été, je le faisais déjà par la lecture des manuscrits, mais quand on devient éditeur, c'est sûr qu'une partie de soi C'est pas l'auteur qu'on met en avant, c'est les autres. On travaille pour les autres. Tout le travail qu'on fait est pour les autres, pas pour soi. Il y a une dimension un petit peu... c'est un travail de long. L'édition, il y a toutes sortes de petites choses qu'il faut faire pour que le livre, finalement, paraisse sur la table et que l'auteur soit content et vive avec ce livre-là. Et depuis le début, je pense, du Noroi, il y a toujours eu un accompagnement des auteurs. C'est-à-dire un dialogue, c'est moins un travail critique, si on veut, mais sous l'angle du dialogue à long terme. On commence ici, et ce qu'on veut, c'est établir un dialogue autour de la poésie, mais sur des objets très concrets. Et je pense que c'est comme ça que ça continue encore.
Est-ce que c'est pas frustrant, cependant, à certains moments, parce que c'est clair que vous aimez tous les deux passionnément votre métier? On sent au Noroi, je peux parler comme auteur, qu'on est bien reçu, qu'on est effectivement accompagné. Et ça, en te lisant, Paul, on voit que dès le début, dès ton premier livre, tu te sentais très accompagné. Donc, il y a une transmission de l'accompagnement des auteurs. Mais comme il n'y a que 24 heures dans une journée, comme le temps est court, est-ce que par moment, on se pose la question, qu'est-ce que je donne à l'autre et qu'est-ce que je garde pour moi?
Oui.
Et le temps passant, peut-être que cette question-là se pose davantage, disons, dans la cinquantaine ou dans la soixantaine que dans la trentaine.
Non, mais c'est au départ, c'est la frustration, c'est comme, quand on a une frustration, c'est comme une... Nous, les auteurs qui venaient, ils disaient qu'ils rentraient dans une famille. Parce qu'on parle de maison d'édition, mais nous autres, ils disaient, on rentre dans une famille d'édition. Alors, les frustrations, ils viennent comme des relations entre frères et sœurs. Mmh. Tu sais, de temps en temps, ben, il y a des petites jalousies ou il y a des... Tu sais, les frustrations, ils viennent avec quand on a des contacts, quand on investit de l'affection envers l'autre. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le retour qu'on veut, mais en amour, en amitié, c'est comme ça. Alors, comme nous, on était une famille d'édition, ben, c'est sûr qu'il y a eu des frères et sœurs qui s'aimaient moins ou que nous, bon, on devait prendre plus pour un, pour l'autre et tout. C'est la famille. Mais le genre de frustration, c'est ça. C'est... Mais chez nous, comme notre famille, on est 10 enfants, alors on était, mais... et chacun, on a toute notre personnalité et tout. Alors, dans le Noroi, c'est ça qu'on voulait faire aussi, que chaque auteur ait sa personnalité, qui ne ressemble pas à l'autre, mais qu'aussi, ils se respectent l'un l'autre. Et les frustrations, bien, c'est ça.
Ça fait partie des choses inhérentes à n'importe quoi, de toute façon. Mais j'allais dire que c'est... Il y a une contingence, puis il y a des possibilités dans n'importe quel travail qu'on fait, même comme auteur. Mais mes frustrations dans l'édition tiennent plus dans, je dirais, c'est pas en amont. C'est sûr que parfois on peut avoir des heures avec un auteur ou pour toutes sortes de raisons. Là, c'est une relation encore là, c'est une relation libre. Tout le monde peut s'en détacher pour toutes sortes de raisons. C'est arrivé, il y a eu des passages plus étroits. Mais règle générale, ça se passe, je dirais, plutôt dans cet accueil, dans cette compréhension. Et si j'ai des frustrations, c'est après l'édition. C'est-à-dire que pour moi, le travail le plus intéressant, c'est vraiment le travail dans l'atelier. Là. C'est en amont. Et évidemment, après, on fait le livre, puis on l'accompagne sur la place publique, parce que j'ai toujours trouvé important que d'aller porter en quelque sorte le livre vers les lecteurs. C'est pour ça qu'on a toujours organisé les lectures au Noroi, aussi bien René et Céline que nous par la suite, parce que il n'y a pas d'appareil industriel qui vient appuyer ça, c'est artisanat, et donc aller au plus proche, au plus loin qu'on peut aller avec l'auteur pour trouver des lecteurs. Donc, une lecture à quatre auteurs, par exemple, pouvait permettre d'entendre quelqu'un qui vient entendre, je sais pas, Céline Fortin, puis il entend Paul Bélanger, puis il dit « Ah, mais finalement, Paul Bélanger m'intéresse aussi. » Bon, ça peut ouvrir des possibilités. C'est toujours dans l'idée d'ouvrir des possibilités. Ce qui est frustrant, c'est pas une frustration personnelle, c'est les auteurs qui nous appellent et qui nous disent « Bon, ben, voilà, le critique n'a pas parlé de mon livre, j'ai pas eu d'écho. » Je trouve ça... difficile pour les auteurs. J'essaie de les accompagner là aussi, dans mesure du possible, parce que parfois, beaucoup d'auteurs ont l'impression de travailler dans une solitude extrême. Et en même temps, ben, cette solitude extrême, c'est ce que j'essaie de leur dire quand je leur parle. Je suis d'ailleurs tombé sur une phrase hier qui était du même ordre d'une poète anglaise qui disait toutes ces solitudes qui travaillent chacun de leur côté, c'est en même temps une solidarité dans le sens où on le sait, les poètes de notre bibliothèque nous accompagnent dans ce sens-là aussi, donc il y a un sentiment d'appartenance en quelque sorte qui vient tromper ça. Et il y a beaucoup de petites choses dans l'édition qui sont frustrantes, que ce soit des aspects administratifs, parce que, bon, pas la différence, mais dans la continuité de la maison, évidemment, je fais pas ça chez nous. On a un bureau. Dans les années 90, on a acheté une maison à Saint-Hippolyte qui a servi de siège social à la maison. Donc, la dimension du souper à la maison que Céline évoque, il s'est déplacé un peu, mais je pense que l'esprit est resté quand même. C'est sûr qu'à 800 titres au catalogue, on peut pas aller souper tous les soirs avec tout le monde. Ouais, je viendrais gros peut-être. non, mais je veux dire, j'aurais pas le temps. Je peux pas être ami. Puis je pense pas que ce soit ça que les auteurs nous demandent, d'être des amis intimes, d'être un accompagnateur, un lecteur, un premier lecteur. Je pense que c'est ça qu'on nous demande de faire. Et d'aller le plus loin possible dans cette rencontre-là. Ça m'a jamais frustré. Au contraire, ça m'a appris énormément de choses, non seulement sur moi-même ou sur ce que j'écris, mais sur la poésie en soi. C'est-à-dire, je trouve que c'est un privilège. Les gens me demandent souvent, mais vous trouvez pas ça difficile d'être éditeur de poésie? Pourquoi, franchement, je fais ce que j'aime? C'est sûr que si on pense en termes d'argent, c'est foutu.
Là, on est frustré.
Je dis souvent la blague que je suis indépendant de la fortune.
Oui.
Donc, la fortune m'ignore totalement. Mais symboliquement, si c'était symboliquement, je pense que le Norrois serait très riche. Et ça me plaît beaucoup.
En fait, on est riche des contacts.
Oui.
Le Norrois, on a toujours fait côté visuel et côté écriture. Alors, tous ces gens qu'on rencontre, c'est ça la richesse, finalement, d'une maison d'édition de poésie. C'est tous les contacts qu'on a. Bon, puis nous, avec en plus, qu'on peut dire, avec les artistes en art visuel, c'est extraordinaire.
Oui, d'ailleurs, tu sais, l'année passée, quand il y a eu le vernissage, lancement de notre saison, avec tous ces artistes qui avaient accompagné pendant 40 ans, moi, il y a des artistes que je ne connaissais pas du tout. Là, j'étais très ému de les rencontrer là-bas.
Très ému.
Ben oui, et on leur avait fait la place sur la scène parce que c'était eux autres les vedettes cette fois-là. Et franchement, j'ai retrouvé ce que tu appelais la famille ou ce que j'appelle la communauté inavouable qui secrètement participe à cette amitié qu'on appelle l'amitié du poème et qui dure encore. Ça, c'est quelque chose qui me remplit quand même.
C'était une belle rencontre. Ouais. C'était beau de voir tout le monde ensemble.
Oui, tout à fait.
Je voudrais pas qu'on termine cet entretien-là sans parler de votre écriture. Et vous venez de faire paraître chacun un très beau livre, très différent. Évidemment, on va dire que, Céline, tu as fait paraître une anthologie de tes poèmes de 1982 à 2008. Paul, ton recueil Repli, Chambre de l'arpenteur, est paru à peu près en même temps. On se rend compte que vous avez des écritures, je dirais, qui ont quand même des affinités, mais des écritures très différentes. Et ça aussi, ça représente ce qu'est le Norrois, une ouverture à des manières différentes, des façons de voir différentes, mais toujours dans l'exigence du poème. Céline, tu disais que tu pratiques une écriture où le jeu de l'auteur est plus collé à celui de l'écriture. Et tu disais cette phrase-là que j'ai trouvée très belle, que tes filles te rappellent parfois que tu manques de pudeur. Donc, chez toi, je vois cette écriture-là qui est une écriture pulsionnelle, écriture de colère, de passion, de révolte. On sent la femme bouillante. Et chez toi, Paul, tu disais que tu aimes inscrire une certaine distance entre l'auteur et le je du texte ou l'énonciateur du texte. Ton écriture a une dimension que je dirais, mais très bellement, plus cérébrale, mm-hmm. plus pensée. Pas qu'il n'y a pas de pensée chez toi, mais que la pensée passe par le corps, par la pulsion. Et chez toi, c'est davantage par un travail philosophique. Mm-hmm. Comment, je pourrais pas dire comment en venez-vous ou comment voyez-vous votre travail? Est-ce que ce que je dis de votre travail vous semble juste? Ou si au contraire, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis?
Non, je me reconnais et je reconnais Céline aussi dans ce que je dis.
Céline, elle se reconnaît, elle te reconnaît aussi.
Oui, c'est vrai.
Effectivement. En fait, comme mon écriture, elle vient de ma création visuelle. J'ai toujours dit que ma poésie, c'était faire des images avec des mots au lieu de la faire avec de la peinture et tout. Mes premiers trucs de peinture, c'était moi, c'était le corps, c'était comme des autoportraits que je faisais. C'est comme une étude de mon corps ou du corps de la femme ou du corps même de l'homme aussi, parce que certains trucs. Alors, sûrement que des fois j'écris à la suite d'avoir fait des pièces en visuel, puis d'autres fois je fais le visuel à partir de mes mots quand j'illustre mes livres. Alors effectivement, sûrement que mon écriture, elle part du corps, puis elle revient au corps, elle fait partie du corps, comme le geste de peindre. Je dis toujours, le geste de peindre puis le geste d'écrire, c'est la main. Mm-hmm. Puis c'est de la main à la tête. Mm-hmm. Et des fois, la main, elle veut faire juste ce qu'elle veut, mais souvent, elle va à la tête, puis elle revient. Peut-être que toi, des fois, elle reste plus longtemps à la tête.
Non, c'est la main qui pense. Il y a une belle phrase de Novarina devant la parole où il dit que c'est pas la tête qui trouve, mais c'est la main. C'est la main d'écriture, c'est le travail de l'écriture qui fait qu'on est amené dans une aventure, parfois même à laquelle on ne s'attend pas. Mais bon, de dire que c'est plus intellectuel, peut-être, je sais pas, j'ai pas l'impression de... comment je pourrais dire ça? Résumer ma pensée sur cette pratique, on est tellement proche de ce qu'on fait soi-même. Je pense qu'une dimension intellectuelle dans mon travail, a posteriori, je constate souvent dans mes livres des associations de lecture. C'est-à-dire, il y a la présence de nombreux poètes dans mes textes, que ce soit Fernando Pessoa, Junio Montale, Michel Beaulieu et d'autres, je me rends compte que c'est une dimension qui est presque de l'ordre de l'écriture. C'est comme si la lecture faisait partie du mouvement de l'écriture et parfois il se retrouve dans mes textes. Ça a toujours été comme ça. Je griffonne en marge de mes cahiers, je montrais ça à personne, mais ce que Céline dit sur le corps et sur le tremblement de la main, disons qu'il veut écrire et qu'il n'y a pas de mots, ça suscite au contraire là, des dessins, je ne sais pas du tout dessiner, mais c'est pour moi une écriture sans mots et dans l'attente des mots qui ne viennent pas, et parfois ben, la machine se remet en marche comme ça et on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas très réfléchi, je veux dire, c'est dans l'intuition du travail, on écrit. Et par contre, ce que j'ai peut-être à cause de mon stage avec Michel Beaulieu, j'avais quand même pour moi-même une exigence. J'évitais pas les questions, la mise en crise du texte. Je pousse vraiment souvent le texte à sa limite pour voir s'il va tenir la route. C'est une intuition, je sais pas comment nommer ça théoriquement. Et donc, je me suis jamais empêché dans mon travail d'éditeur de poser des questions à l'auteur tant que j'estime que ces questions-là doivent être posées, parce que si on les pose pas avant, on peut plus les poser après, et aussi bien les poser avant pour que l'auteur, dans son cheminement, puisse continuer à mariner tout ça, en quelque sorte, à réfléchir sur ce qu'il est en train de faire, à partir parfois d'une petite question, de rien, comme vous aviez fait avec Projet de Pablo, d'une petite question, tout à coup, qui ébranle tout le texte, et il faut y revenir, il faut le repasser, mais je pense que c'est ça aussi le travail de l'écriture, le travail de l'auteur, ou aussi bien que le travail de l'éditeur, d'essayer de donner à chaque fois un peu plus que ce qu'on peut donner. mm-hmm. Au livre qui est devant nous ou pas. Bon, voilà.
C'est l'exigence de la poésie.
Oui.
Chez vous. J'aimerais ça que tu me parles, parce que j'ai beaucoup aimé le sous-titre « Chambre de l'arpenteur ». Ça nous fait rêver. Qu'est-ce qu'une chambre d'un arpenteur? Et qu'est-ce que pour toi la figure de l'arpenteur?
Ben, elle vient de Kafka, en partie, avec son arpenteur, son arpenteur des rêves, si on peut dire. C'est en relisant, il n'était pas là le sous-titre d'abord, c'était pas le premier titre. Le premier titre, c'était « Repli », tout simplement. Et peut-être que finalement, le vrai titre, c'est « Chambre de l'arpenteur », a posteriori, encore une fois, donc les deux peuvent aller ensemble. Mais c'est qu'en relisant, je me rendais compte que finalement, toutes ces fictions se passe toujours dans une chambre. Donc, c'est curieux, j'avais pas remarqué que la chambre était si présente, parce qu'on travaille dans l'intuition, des fois on est trop collé, on voit pas, et puis tout à coup, ça m'est apparu, en parlant avec les proches, que cette chambre, finalement, c'est là que tout se passe, c'est comme une chambre à magie, et c'est la chambre, j'aurais pu appeler ça l'atelier de l'écrivain, l'atelier de l'artiste, mmh. On travaille entre quatre murs, mais ce sont quatre murs très habités.
Et l'arpenteur, est-ce que ce serait le champ, la mer, le...
C'est le cadastre, c'est le cadre, c'est l'ouverture dans ce cadre, c'est l'infini dans ce cadre d'ailleurs, c'est absolument infini la chambre, dans ce sens-là. Et la marche de l'arpenteur, si on peut dire, est loin de tourner en rond, bien qu'on semble tourner en rond souvent, c'est plutôt une spirale qui avance tranquillement, et c'est comme ça qu'on avance dans notre travail. L'arpenteur, c'est celui qui cadastre son propre territoire, en quelque sorte, le territoire de cette aventure qu'on appelle une aventure de la connaissance, ou une aventure, en ce qui me concerne, de mes propres textes. Je vois ça un peu comme ça, et a posteriori, quand je relis mes livres, je les relis pas, mais je veux dire, quand je feuillette parfois les textes et que je les lis en public, je raconte, ah bon, il y a des constantes. L'autre jour, des amis m'ont fait une petite fête comme ça et je les écoutais. C'est incroyable, je me suis trompé de livre dans un cas, je me répète donc, je ressasse des vieilles obsessions qui se retrouvent dans plusieurs livres, mais je pense qu'un auteur est l'auteur d'un seul livre finalement, de toute façon. Tout auteur, et ça me vient de Pessoa, tout auteur, Borges, tout auteur a droit à sa page dans la littérature. Et je pense qu'un auteur ne fait qu'un seul livre, avec des métamorphoses importantes parfois, même radicales, mais il y a une continuité de ces obsessions-là qui se métamorphosent, qui ne se ressemblent pas nécessairement, mais finalement, quand on fouille un peu, tout ça est lié. C'est pas sans lien avec Projet de Pablo, tout ça, c'est pas sans lien avec Retour. Donc la chambre était déjà là, d'ailleurs. La prose était déjà là dans Retour. Parce que la première même version de Retour avait été écrite en prose, et j'ai totalement détruit cette prose-là pour garder un mince filet à la fin qui s'appelait Minuit l'aube, mais la volonté de travailler dans la prose était déjà là quand même.
Oui, votre écriture à tous les deux est inscrite dans la continuité. C'est pas une écriture de rupture. On voit des motifs se développer, des formes différentes au gré des livres. Mais il y a une grande continuité dans votre travail.
Quand on voit, comme moi, là, je suis rendue avec... Mais ça me fait penser à une de nos poètes, qui est Jocelyne Fex, qui m'a fait juste un petit commentaire sur le livre, et ça m'a beaucoup fait plaisir. Elle a dit, ça ne se lit pas comme une anthologie, ça se lit comme un livre, oui. Parce qu'elle dit, on sent qu'il y a un film, mais ça, on le doit à Jean-Chapdelaine Gagnon,
oui.
Qui a trouvé un film dans tous mes différents livres, et qui fait qu'on le lit, et ce que tu viens de dire, et là, c'est quand on les voit, les livres pris dans chacun de nos livres, qu'on voit finalement cette page unique,
oui.
Ou ça.
Oui, oui, c'est quand Jean est arrivé avec le manuscrit, j'étais... comment dire, étonné, mais pas parce que je te connais pas, mais parce que Jean a fait un choix de livre. Il a fait cette anthologie comme un livre, comme on parlait tout à l'heure. On fait des livres et pas des recueils.
Donc, oui, il a conçu ça. Oui, il fait comme un livre.
Et c'est ce qui m'a intéressé dans la lecture et que j'ai trouvé passionnant à lire parce que ça renouvelait la lecture qu'on peut faire de ton travail. Et ça, j'étais très heureux de pouvoir le faire connaître.
Parce que, je te remercie.
Ben, écoute.
Et l'introduction est très intéressante aussi. C'est une très bonne introduction. Le temps passe trop vite, malheureusement. On va devoir s'arrêter, prendre une pause, mais après la pause, vous aurez l'occasion d'entendre des lectures de Céline et de Paul, et il y aura ensuite une période de questions. Alors, donc, on va prendre une dizaine de minutes et revenir ensuite avec les lectures. Le temps de la lecture, nous allons commencer par Céline Fortin, qui va lire des extraits de « Femmes infrangibles » et ensuite, ce sera Paul Bélanger.
Alors, si je m'étends trop longtemps, tu m'arrêtes, hein? Alors, je vais commencer par le « Femmes fragmentées », quelques poèmes de « Femmes fragmentées » et je vais essayer de suivre l'ordre dans l'anthologie. Alors, vous aurez peut-être un fil conducteur que vous pourrez trouver vous-même. Alors, dans « Femmes fragmentées », « Femmes », « Toi, la mère, ménagère du temps, de petits monstres, de petites ogresses, t'avales le corps, t'éparpilles la tête, te morcelles le cœur. Dans ta bulle de banlieue, tu vas éclater. Il va falloir tout éponger. » C'était au temps de ma mère d'avant, et elle ployait sous le silence, gardée tout au long des siècles où son homme parlait pour elle. Mais il ne savait pas dire les mots par elle longuement portés, comme des enfants morts, paroles plusieurs fois avortées, paroles aujourd'hui enfantées une à une. Ma mère d'avant avait perdu toute autonomie, abdiquant tout désir, mais il couve, comme braise sous cendre, et mes sœurs entretiennent la flamme. Encore silencieuses et bâillonnées, rencontrées trop nombreuses, les femmes d'ici se disent et parlent en leur nom, mais leur discours emprunte souvent celui de l'homme, par la force du temps, par la force du pouvoir des mots. Il n'est pas si loin le temps de ma mère d'avant. Alors, dans « D'elle en elle », qui était paru en 89, « Écrire en Abitibi ». Était-ce une neige de fleurs, les merisiers changeaient de saison, à peine écoutais-tu les oiseaux, les yeux serrés sur ton enfance. Écrire en Abitibi, d'autres vont à Paris, l'origine à découvrir, les odeurs, les bruits, la lumière, le lieu précis de la mémoire, le foyer de la venue à la vie, le cheminement, d'ici le village à la ville, d'ici la fillette à la femme, une histoire à reprendre. Longtemps encore, à te souvenir, la musique des ustensiles, la fatigue des mains sur les escaliers, les volets, les chemises des hommes. La mémoire apprivoisée, tu reviendras de ce côté-ci des choses. Alors j'ai repris en écrire en Abitibi 2. Revoir l'Abitibi sous la neige étalée, s'enfoncer toujours plus avant dans les gris du pays, y retrouver les fantômes des moments de jeunesse et découvrir la mémoire des temps méconnus. Difficile à remplir cette page. Jamais l'écriture ne s'envole. Il y a cette pesanteur de la main sur chaque mot. Est-ce bien lui, mon père, sur cette photo d'époque et d'épopée des chantiers? Et ma mère, comment la reconnaître, l'aimer là, immobile, quand le désir de ses caresses me hante encore, si loin, si souvent? Le plaisir du texte, le plaisir de lire, ouvrir au couteau le bureau du titre et rencontrer Alain Chensky comme un bourreau des mots. Revenir par un dimanche blême, la lumière changeante d'une mauvaise journée d'hiver. Il n'y a plus d'horizon, plus de pays qu'un immense ciel gris à croire sans fin les neiges de janvier. Ma mère. Tu regardes l'écran, les lutteurs te font sourire dans l'intime des gestes où tu dissimules ta tendresse. Je n'ai jamais su le lieu de ta passion. Pour toujours, la fatigue l'a emporté dans cet ailleurs qui maintenant te tient lieu de vie. Tu regardes les champs par la fenêtre trop petite de la cuisine où tu cours après tes journées. Tu regardes au nord, la forêt t'a mené ici, jusqu'à cet homme, jusqu'aux 10 enfants que tu lui as portés et qui ont miné ta santé. Regina. Grand-mère, vos pas résonnent en moi des images de voyage. J'aime penser à vous ici, la face à la mer. C'est comme si nous humions les mêmes odeurs de varech, nous arpentions les mêmes plages de sable blanc, nous partagions le même pays, cet espace entre terre et mer. Je marche dans vos pas, à la fois attirée par le sud et entraînée vers le nord. 44 ans. J'ai 44 ans, l'utérus ferme et vide. Le teint clair, la peau douce, les seins lourds, mais beaux, et je suis enceinte de moi-même. Le printemps court devant l'été, et je n'aurai que moi à mettre au monde toute cette saison. Au même âge, ma mère était enceinte de moi, elle. Elle portait mon poids de vie, m'installait dans son présent. J'étais sa création, elle me réalisait au long des mois. Avril, mai, juin, juillet, août. Maman, te lassais-tu de moi parfois, comme je le fais certaines fois de moi? Alors, dans celui-ci, il s'intitule « Les intrusions de l'œil ». Et comme je disais tout à l'heure, ici, j'ai fait les dessins avant de faire les textes. Alors, je fais comme une description de mes dessins. Les intrusions de l'œil, comment s'écrivent nos désirs? La femme rose. Le corps figé à la taille dans un carcan de bronze, ce regard de vivre installé dans l'immobilisme. Encagé dans la case, le dessin ou la feuille, dans la chambre, la maison ou l'univers, la femme rose occupe l'espace permis selon les circonstances de sa création. Elle se demande comment loger dans la si petite circonférence de son crâne les idées qui occupent son cerveau, les études, applications et expériences qui remplissent le cours d'une vie souvent trop brève. En plus de cela, de quelle manière procéder pour donner à lire seul l'essentiel? Finalement, comment s'écrivent nos désirs? Elle voudrait que la ligne en percutant l'épiderme éclate. Quand elle entend parler de proportions idéales, son désarroi s'accentue. Il devient évident qu'il lui faut réduire le volume de sa taille. Que de peine avant d'y arriver. Et la sensibilité cesse lorsqu'on intervient l'appareillage numéroté. La géométrie inflexible s'interpose dans le froufrou des masses. La courbe renforce l'idée qu'on se fait de la grâce. En cette fin de siècle, on renoue avec les rondeurs et l'on remet à l'affiche poitrine engorgée, croupe pleine, musculature développée. Je vais voir un petit peu. Elle est deux. Elle est deux, papillon de jour, à exiger l'impossible de la vie. Mais elle oublie de se compromettre. À chercher l'essentiel, mais elle vit de chimères. Deux, vivant un règne entier à craindre la solitude de grise et nier la vieillesse. Et voilà, dans un ciel laiteux, dire le nord. Il neige, elle monte, les toits disparaissent. Corps emmitouflés, têtes enrubannées, l'hiver souffle son froid. Les pas enfoncés dans la molle profondeur de l'inconnu blanc. Des maisons blanches aux toits noirs paissent dans la neige. Neigeote, neige la neige, blanc sur gris et gris sur blanc. Soleil chaud, nuit et fraîche, mais pas de sucre sur ces grandes terres. Tout un champ miroite, l'eau s'écoule sous la neige, le temps s'égoutte. Voilà, je pense que vous aussi.
Merci beaucoup.
Oui, c'est plaisir.
Merci Céline. Alors, Repli, Chambre de l'Arpenteur, était conçu comme un hommage au poète de la prose, tout horizon confondu. Et je vais lire quelques poèmes de la fin d'une partie qui s'intitule « Chambre, espace critique ». Et par la suite, je vais lire le début. Comme ça, on aura fin et début. Il voulait devenir l'homme livre. Qu'advienne, disait-il, l'air du temps, la faille fantastique, qu'advienne chaque jour le livre attendu, impossible. Un vrai temps de liberté, même s'il n'y croyait plus, désirait tout au moins qu'il devienne ce corps. Il espérait toutefois une histoire de ses jours décomposés dans l'humble repli de sa solitude. Qu'advienne le moment du jour dépassé, brûlé par le livre, une vie comme la sienne, remémorée, le temps d'un homme de passé et ce passage qu'il donne. Tout départ est une déportation. Ses voyages le terrorisaient. Pourquoi partir ? Il abhorrait la nuit qui précédait, sans sommeil ni histoire. Il entendait quelques voix, mais elles étaient diaphanes. En allait-il des êtres comme des langages ? Au-delà de leur temps respectif, ils puisent au souffle des générations et dans la foulée renouvellent la partition. Il adhère à ce pacte plus grand que lui, se brise et meurt. Certaines phrases vous regrettent, comme si le fait de les écrire vous laissait loin derrière. D'autres vous perdent. Il butait sur cette phrase. Depuis quelques heures, les mots devenaient flous, s'embourbait dans une pâte glaiseuse, porteuse d'une lumière sombre, mille visages passaient qu'il avait fréquentés. En connaît-on un seul, il n'en désirait pas tant, les mots, après tout, s'effacent dans leurs reflets, tournant autour d'un sujet aveugle, plus ou moins lui-même. Il voulait aller au bout de ce souvenir, sans oublier son nom. Il vivait donc reclus, marchant de long en large dans le salon, dans sa chambre, tant d'histoires dormaient. L'ouverture terminée, cette chute où sa vie se brise, car le monde est sur sa fin, désolation, faim, crime, tant de larmes tandis que son lieu s'érige dans la marge, banquet où les personnages attendent l'élégie du retour. Chacun murmurait sa phrase végétale. Érasme, dans la folie de son corps, tournait le dos à l'amitié, en exil, lui aussi dans cette chambre, prose de son existence. La chambre est claire, comme l'air du soir aspiré par le rideau du vent. La bruine tiède couvre la chaise du jardin. Dans le lac noir du plancher s'engouffre le ciel, une silhouette passe, transparente à la lumière, un personnage sans identité, une ombre portée. Il brade sa peur, ocelle crevée, fonde un paysage avec cheminée et fumée, progrès, n'y pense pas. enfermé, hostile au voyage et au marketing exotique de l'au-delà. Sans autre ressource que sa force, il se dépense dans les failles jusqu'au vertige du bois. Il connaît bien l'endroit. Il rejoindra la forêt plus tard. Avec cette phrase énigmatique de Simone Veil, tirée de ses cahiers de New York, et qui ferme le livre, « Tout être pensant est digne d'amour, seulement pour autant qu'il a reçu l'existence de l'acte créateur de Dieu et possède la capacité de renoncer à cette existence par amour pour Dieu. J'ai le droit d'aimer moi-même ou autrui seulement à ce titre. » Et donc l'ouverture du livre, « Circonstances », avec un exergue de Laurent Gaspard, « Seul face à son destin ». Ces circonstances, comme l'expérience d'un creuset, savoir du monde promis à l'énoncé, au tout venant qu'il passe son chemin sourd et sans détour s'enfonce dans la vie qui s'offre. Je dois confesser que ça m'échappait, la moindre parcelle du monde, ma solitude, l'immobilité. Tout du langage me reste étranger. Quelle prétention, pensais-je, d'ignorer le malentendu de la langue? Quelle fin, à la fin, l'expérience radicale, sans autre lumière que celle de ses eaux? La pluie barbouille la vitre, un vent poussif souffle aussi mon âme au-delà du cadre furieux, furieux dans l'heure sans ombre ni crépuscule. Partir inexistant vers l'or des sources, longer, léger, oublier la rive secrète d'où l'aube émane et de toutes les façons reprendre de toutes les façons les pas venus dans le sens du vent. Le mal des fleuves, au pourtour de brocante, tout lieu porte le personnage à son absence comme à une montagne cachée. À l'horizon de basse lumière se profile, le jour encore sans couleur ni contour, dans la profondeur d'un trait, la mémoire d'un signe qui ignore son existence. Comme en une prédation d'idées qui se mange dans les songes du temps, palimpseste d'une vie en une autre. Il disait « L'espace retient la lumière d'une âme folle ». Il disait volontiers qu'il s'agissait d'une ironie. Érigeant ses forteresses sans qu'il accède à un refuge. Le ciel disposait dans la plaine ses arcanes colorées. Je suis impatient face à ce mur vide. Surmenage. La force étreint la pierre friable et muette, étreint sa volonté, les fulgurantes zébrures bleutées de sa peau, les lèvres sur sa plaie, le miracle, son écologie, l'équivoque des marchandises mêlées aux étoiles. Pas seulement voix, aussi bien hurlement, murmure à la criée, voix toujours à l'agonie, appel à jamais meurtri, jamais achevé dans la barbare étreinte des sangs, contraint aux espaces clos. Partout ailleurs, rien de visible, seulement cette véhémence sans objet. Il baignait dans la sueur, cheveux d'amour, songe d'un temps, ô mon désir, une vie affilée au creux des heures, sans souffrir, sans étaler la haine. Aucun écho dans la nuit, ainsi, sous le ciel, la parole qui échappe au sol. Mais comment s'élever avec des paroles au fer lourd? Elles apprennent le retour des choses, le miel du jour, l'ultime flambeau des syllabes. La vie à l'infini d'une page qui tient dans un pli le souffle de son éternité. Je dictais l'obscur discours en lambeaux, témoin sans parole. dorment sous les quilles les circonstances perdues. Une voix sans mots se lève. La poussière du bois surgit dans le spasme des entrailles pour dire que sans la misère des départs, la nuit tient dans un dé à coudre, illusion d'un passage à reprendre. Une telle fable, emportée par les prières, ondoie dans la lumière de la brume qui se retire, car la matière donne aux hommes l'obligation de rapprocher du temps cet instant suspendu au dehors. Chante la matière que personne n'a entendue, forme de son oubli. Rien n'est appelé dans le sang des hommes, ni la forme unique d'une histoire en décomposition. Une source remonte vers la lumière frontale du jour. Dans le dur écoulement de la page, sur tout midi plongeant, la verticale des choses, d'un mot la nuit. Il est resté un long moment suspendu entre ciel et réalité. Il y reviendrait, carré d'oubli, d'avoir tant cheminé parmi cette immobilité. Il ne reconnaît plus la chambre. Les choses, parfois, traversent la surface. La perspective d'un plan qui a forme de visage, par exemple, le temps s'effondrant sur lui-même.
Merci beaucoup, Céline et Paul, de ces très belles lectures qui nous permettent de mettre une voix sur les mots, sur vos textes. C'est autre chose que la lecture chez soi, dans notre chambre. Alors, le temps est venu d'une période de questions, mais je dirais d'échanges avec vous, de commentaires. Alors, je vous inviterai à faire des commentaires ou à poser des questions à Céline ou à Paul, si vous en avez le goût. Oui. Est-ce que c'est possible d'aller au micro? Et de vous nommer aussi. Merci.
Bonsoir à tous. Je m'appelle Vincent Filteau et ma question s'adressera à Mme Fortin. Donc, ça va ratisser un petit peu ailleurs de ce qu'on a parlé ce soir, mais vous étiez à la barre des éditions du Norrois quand Michel Beaulieu, à partir de l'oracle des ombres en 79, a commencé à élaborer sa forme épique de l'intime extrêmement narrative, où il a emprunté à beaucoup de poètes anglo-saxons et américains. Donc, puisque je m'adresse à l'éditrice, puisque vous étiez là, qu'est-ce qui, selon vous, a motivé l'élaboration de cette forme-là et dans quelle mesure avez-vous accompagné Michel Beaulieu à l'élaboration de cette forme-là? Merci.
Pour la première partie, je pense que je vais laisser à Paul. Paul connaît mieux l'œuvre que nous. Quand on a rencontré Michel Beaulieu, quand il est venu chez nous pour publier, Michel, c'est un être assez fermé, assez... Il gardait beaucoup les choses pour lui. Entre autres, tous ses manuscrits, quand il les écrivait, il les mettait 6 mois au tiroir, il les reprenait, il écrivait autre chose. Il y avait, comme toujours, beaucoup de manuscrits en même temps. Et il publiait jamais avant, je pense, 2 ans de laisser mûrir chacun des textes, au moins 2 ans.
Oh oui, il y avait plusieurs manuscrits de front, mais un après l'autre.
Ouais.
Et la période de sommeil était importante, effectivement.
Mm-hmm.
Et sur cette, mais Oracle des ombres était le 3e livre qu'il publiait, je pense. Il y avait eu FM, Lettres des saisons. Mm-hmm. Il y avait eu Anecdotes. C'était le premier qu'il avait publié au Norrois. Et c'est vrai qu'à partir d'Oracle des ombres, il y a une transformation, mais elle est déjà là comme indice, même dans ses livres, dans ses premiers livres. Il y a toujours une dimension assez lyrique chez Michel. Mais la dimension narrative que tu évoques, avec Oracle des ombres, visage et kaléidoscope surtout, je pense qu'il, c'est pour ça que c'est un novateur dans les formes, je pense qu'il il apporte à la poésie de langue française, je mesure bien mes mots, il apporte à la poésie de langue française quelque chose que la langue française ne connaissait pas dans la poésie, et c'est pour ça que ça, c'est un ouvreur de piste en quelque sorte qui continue à faire des petits, je dirais, et à créer des lecteurs, même si ça demeure apparemment modeste. Je pense que c'est un auteur qui va prendre de plus en plus de place à cause de ça.
Mais probablement qu'aussi à la suite de ses lectures de poètes anglophones et tout, c'est ce que j'en sais, je ne suis pas une spécialiste, mais ce que je sais de la littérature anglophone de l'époque, elle était plus lyrique que la nôtre.
Oui, beaucoup plus narrative.
Surtout. Narrative,
on raconte des histoires de pêche dans la poésie anglo-saxonne, des histoires de baseball. C'est-à-dire des éléments extrêmement banaux, ou banals, en tout cas, qu'importe. Ça n'existait pas, banaux, ça m'aurait étonné aussi. Mais... Michel est un grand lecteur d'abord, il est un immense lecteur. Je connais peu de personnes qui lisent autant de poésie que Michel Beaulieu en lisait. C'était un lecteur dévorant, gourmand, comme il était dans tout. Un être gourmand, ça le définirait excessif aussi. Et donc excessif là aussi, et avec une extrême minutie dans son travail, une extrême intelligence du poème, du texte, qui était vraiment très inspirante pour quelqu'un qui le connaissait et qui était comme moi, qui avait la chance d'avoir une relation d'amitié avec lui. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ce cycle-là, est, en soi, pour moi, représente un moment... Oracle des ombres, en soi, est pour moi un livre immense dans notre poésie, pour cette période-là, fin des années 70 particulièrement. C'est un livre, je pense, qui continue à éclairer très fortement la poésie actuelle.
Kaléidoscope aussi.
Oui, Kaléidoscope aussi. Je ne sais pas si je réponds.
Est-ce qu'on a répondu?
Oui, quand même. Merci.
Merci de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Des réflexions qui vous viennent sur la poésie de Céline, la poésie de Paul ou la poésie du Norrois? Je pense qu'il se fait un peu tard, malheureusement.
Ben, j'ai trois petites minutes.
D'accord.
Trois petites minutes, parce qu'on a demandé.
Alors,
hein.
Bon, d'accord.
Alors, c'est dans un... c'est dans... Je prends goût, hein, vous avez vu, hein, je commence à prendre goût dans mes petits papiers, voyons. C'est dans, les commandements. Alors, j'ai fait un livre qui s'appelle « Commandements, litanie et autres imprécations ». Et ce livre est construit sur d'après les 10 commandements, mais j'ai retravaillé les commandements à ma façon. Alors, vous allez voir. Alors, il n'a pas tout donné. Là, j'ai les poèmes. Alors, c'est le commandement numéro 1. Elle graine la terre pour la prochaine récolte, plante de minuscules arbustes en bordure de son carré de sable afin d'éloigner le désert. Le fagot sur la tête, l'anneau encerclant la narine ou le bracelet aux pieds, pauvre enfant né dans le tumulte, la fureur, la terreur, elle relève à peine le pied tant lui pèse la violence, le deuil, le joug patriarcal. Pendant ce temps, on fige l'horreur dans des musées, sous les pleurs et l'immobilisme des duègnes, une mèche de cheveux de la défunte sur le cœur. La cagoule ne réussit pas toujours à taire l'identité de l'assassin des dormeurs. Elle y reconnaît son frère, tueur d'enfants, génie malfaisant. Comment ne pas être submergée par la désespérance des mères? Parée de leur tablier, elle dépaisse le maigre animal, ajuste le sel, chauffe la soupe, grommelle leur argot, élève leur petit haut au rang de soldats, s'ennuie de leur absence, pleure sur l'atrocité de leur mort. Enveloppée de voiles ou de foulards, accablée sous la sueur de leur pulpe, elle rêve de poitrine nue, sous la chemise prête à allaiter les enfants de la paix. Elle n'aspire qu'à cueillir la quiétude sur le thorax de l'homme aimé. Elles empilent leurs désirs comme des châteaux en Espagne. Et ça continue un peu comme ça.
Bon, alors, je vais me commettre aussi. Je vais lire le début de Repli, les trois premiers textes, avec cette phrase tirée d'un roman de Vassili Grossman, « Vie et destin », qui est un roman vraiment extraordinaire, je vous le recommande. Le pilote mort était étendu sur un banc de neige. La nuit était froide et les étoiles brillaient d'un éclat extraordinaire. À l'aube, la colline devint toute rose et le pilote était étendu maintenant sur une colline rose. Puis le vent se leva et la neige recouvrit le corps. Comme fin de roman, admettez que c'est quand même très poétique. L'homme à l'avant-plan est démesuré. Son visage large comme la steppe, son poids dans l'image est en disproportion du paysage. Mais des nuances m'échappent. Le jeu chromatique tisse des cordes dans le ciel blanc, sans profondeur, sa lumière âpre agresse les yeux. Le corps inondé par l'horizon froid, emmitouflé dans ses laines, une larme gelée au coin de l'œil, perçoit l'onde sonore d'un train au loin, le vent asthmatique est décoloré dans sa forme aveugle. Un tel moment, issu de la diversité des récits, qui réunit un corps à une volonté, habite son espace, donne lieu à une légende aussi improbable que tangible. Étendu dans son lit, il savoure quelques idées avant de s'endormir. Des personnages circulent dans la chaîne des cendres, que sont les épopées miniatures. Quand le sillement verbal commence à vocaliser, un combat lui revient en mémoire, un soleil cru passait entre ses doigts et l'aveuglait. Il en reste là, confus, comme soufflé par le silence, un nouveau vide qu'il n'a jamais connu, une vie altérée. Quand tout s'en irait à la mort, il embrasse un monde éternellement en devenir, sans qu'aucun achèvement ne parvienne à résoudre l'énigme. Touchant reste inaudible quant à ses fins. Passe l'heure qui prolonge le séjour, tant que je m'y sens à l'aise, pense-t-il, de rester ainsi immobile au milieu des pièces, rien du dehors ne le sollicite dans le cours discontinu des apparences. Soudé au souffle buissonnier de la forêt, son corps s'éteint, histoire qu'il prenne forme d'une vie, a-t-il puisé son air qu'il se dégonfle, homme en déveine, une rangée de bancs qu'il essaie à tour de rôle sans se fixer, des fantômes sous la fenêtre, le cuir sombre et beau comme une expiation. Rien, par conséquent, que l'illisible, le vertige de la bête souterraine, les mots lâchés contre toute attente multiplient les fragments détaillés de plusieurs déroutes, silence revenu.
Est-ce qu'il vous est venu une question, des commentaires? Même si les questions sont indiscrètes, je me dis toujours, il faut toutes les poser. Les auteurs pourront ne pas répondre s'ils ne veulent pas. Moi, j'en aurais une pour Céline. Si vous ne parlez pas, je vais poser ma question. Comment on se sent quand on reçoit une anthologie comme ça qui regroupe le travail? Évidemment, c'est pas tout le travail, mais c'est un dessin, une esquisse du travail qu'on a fait à partir de 1982.
Bien, d'abord, on sent bien, là, parce qu'on voit que ça fait 30 ans. C'est de l'écriture pendant 30 ans, 82-2012. D'abord, on s'en vient. Et puis, après, je sais pas, je peux pas parler pour les morts. J'ai eu un petit coup, parce que là, je me disais, mais c'est dans la collection Val, elle est très belle, mais le noir. Alors là, j'ai dit, je vais être dans le noir. Puis après, je me dis, c'est pas ça. C'est 30 ans, Céline, qui sont derrière toi, mais c'est 30 ans où tu peux faire le bilan. Et c'est comme si ça m'avait permis de faire un bilan. et un peu de l'écriture et un peu de ma vie, dire ben, parce qu'à un moment donné on se dit ben qu'est-ce qui reste en arrière ou, et puis là ben c'est il y a quelque chose de tangible qui est derrière moi et puis je sais pas, d'une certaine façon ça m'a donné des ailes, alors là j'ai plusieurs projets de publication.
Ça c'est bien, je compléterais ça en même temps en disant que le geste de Jean est un geste d'amitié aussi.
Oui.
Vous l'avez publié, vous avez été proche, Jean était proche de la maison, était reviseur, correcteur et fait toutes sortes de choses. Et je me suis rendu compte en lisant le manuscrit encore une fois qu'il était beaucoup plus que ça, il était vraiment un lecteur de ta poésie. Et je pense que ce geste d'amitié dans ce sens-là, je vois qu'il produit une conséquence qui est de l'écriture encore.
Oui, ça a comme donné des ailes. C'est, ça, c'est derrière, et puis il y a d'autres choses devant. Est-ce que ça répond à la
tout
question?
Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Denise?
Bonjour, Denise, des Hôtels. Alors, on a beaucoup parlé de bilan, et effectivement, on a deux auteurs qui ont beaucoup publié, qui ont des curriculums importants et tout. La maison elle-même a plus de 40 ans. Si on parlait de l'avenir, de votre avenir comme auteur et de l'avenir de la poésie au Norrois et aux Heures Bleues et au Québec et dans le monde, est-ce qu'il y a un avenir de la poésie comme auteur et comme éditeur?
Ben, certainement. C'est-à-dire que, on parlait de frustration tout à l'heure. Disons, si on peut appeler ça une frustration, c'est l'empêchement de la lecture du poème qui m'embête le plus souvent. C'est-à-dire, vous êtes là, donc ça vous concerne pas nommément, mais parce que vous êtes attentif au poème et lecteur ou lectrice de poésie. Je me suis toujours interrogé, demandé pourquoi la lecture du poème posait tant de problèmes au lecteur ou à la lectrice ordinaire. Je réfléchis pas très longtemps, mais je constate tous les jours dans mon travail, dans les rencontres qu'on fait, dans les salons, même chez mes étudiants à l'université, c'est étonnant comme la poésie est absente du cursus de connaissances, alors qu'à mon sens c'est tout à fait dans l'ordre des choses, mais peut-être c'est parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, je sais pas. Moi je vois c'est pas que je vois un futur à la poésie, c'est que je vois la poésie toujours inscrite dans le présent. Et peu importe ce qui va se passer, la poésie sera toujours présente. La poésie, sous n'importe quelle forme, sera toujours présente. Je crois profondément à cette possibilité, peu importe les supports qu'elle trouvera, surtout aujourd'hui qu'on parle de toutes sortes de choses. La machine ne s'affole pas trop. Je pense que le poème est un objet crédible, porteur de présence aussi. C'est plus ça qui me porte, disons, dans mon travail d'éditeur. Dans mon travail de poète, je dirais d'écrivain, c'est plus vague. Le livre terminé donc à l'automne est dans ma tête le dernier. Donc, et bien qu'il y ait de l'écriture encore sur toutes sortes de choses, il n'y a pas d'autres livres comme tel qui est crédible pour l'instant. En tout cas, donc c'est comme si c'était le dernier. J'ai toujours pensé que chaque livre dans mon esprit était le dernier, mais à force, évidemment, il y a une continuité. Donc, je continue à écrire. En tout cas, je pense que ma vie va se faire toujours avec l'écriture jusqu'à la fin, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, c'est un pari que j'ai fait il y a très 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 longtemps avec la vie, que j'allais passer ma vie dans l'écriture, la création, la poésie, et c'est ça qui arrive, donc je devrais me compter heureux d'une certaine façon, bien que je ne crois pas au mot bonheur comme tel, c'est porteur, ça donne un sens, comme disait, j'ai jamais oublié cette phrase de Kafka, lue dans son journal, que l'écriture était un acte qui me donnait une densité dans l'existence, et c'est toujours comme ça que j'ai compris l'écriture, peut-être parce que j'ai publié tard, à 35 ans, et qu'à 20 ans, évidemment, comme tout jeune homme qui se respecte et qui est fofolle un peu, je pensais que j'étais arrivé à quelque chose à 20 ans. Or, en envoyant le manuscrit à un éditeur, il m'est revenu subito presto, et là, j'ai dû prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ou je continue? J'ai décidé que je continuais, que j'allais apprendre entre guillemets, mon métier, peut-être le métier de vivre, comme disait Pavézé, mais que j'allais apprendre mon métier et lire et lire et lire le plus abondamment possible ce que je trouverais, ce qu'on appelle le poème.
Peut-être, ce que je pense, c'est que la poésie n'a jamais été nécessaire. Je pense que la poésie n'est pas vraiment nécessaire, mais je pense que la poésie est essentielle pour certaines personnes. Peut-être qu'elle est, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas. Peut-être que c'est quelque chose de trop dense, de trop intense pour les gens ordinaires. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que moi c'est essentiel et que pour beaucoup de personnes ici la poésie est essentielle. Mais on n'a pas besoin de la poésie pour vivre, mais sauf chez nous. Mais pas avec ce que je disais tout à l'heure, mais c'est ça. Alors la poésie, je pense qu'elle n'a jamais eu beaucoup de, comment je dirais, d'ampleur, puis qu'elle a toujours été nécessaire. On pense à la poésie arabe, chez les Arabes la poésie est très très importante. Qui sont inès presque, puis c'est sûrement essentiel. Puis il y a d'autres cultures où la poésie n'est pas essentielle, n'est pas nécessaire. Alors, je sais pas.
Ça reste ouvert.
C'est ça, ça reste ouvert. Je sais pas s'il y a le plus de qu'il y a plus d'espoir qu'avant ou d'ouverture qu'avant. Quand on regarde les journaux, en tous les cas, c'est sûr qu'elle a beaucoup moins de, elle est beaucoup moins bien reçue ou moins reçue que même il y a 20 ans, dans les journaux, dans les médias, partout. Et puis là, ben, ça a bien l'air qu'à l'école aussi, c'est la poésie.
Oui, une espèce de snobisme anti-poétique, d'une certaine façon. J'appelle ça comme ça par plaisir. Un snobisme anti-poétique, c'est-à-dire que je retourne le mépris au mépris, d'une certaine façon, parce qu'on nous dit toutes sortes de choses là-dessus. Mais en même temps, pour moi, c'est très pragmatique. La poésie, c'est dans mon existence et ça sera toujours. Je suis prêt à en débattre avec n'importe qui y croit pas. Même des fois dans des cours, de façon parfois même assez violente, mais pas souvent, mais c'est arrivé. Des discussions très serrées avec mes étudiants autour de ça, que j'adore d'ailleurs. Parce que ça nous provoque aussi dans les discussions. Je pense que je suis assez d'accord. La poésie n'est pas utile en soi, donc à quoi ça sert d'en faire, mais pour autant, en même temps, dans mon esprit, c'est une fréquentation assidue du poème, me semble-t-il, crée du sens, mais c'est vrai pour les proches, c'est vrai pour les gens qu'on fréquente, c'est vrai pour les poètes, pour l'ensemble de la population, je sais pas. Et de toute façon, le métier d'éditeur nous apprend à être pragmatique. C'est sûr que pour qu'une maison vive, il faut vendre des livres, on le sait. Il n'y a pas de contradiction comme telle entre vendre des livres et faire de la poésie. Toutes ces rencontres-là qu'on fait sont des vraies rencontres. La rencontre de ce soir aussi, on rencontre des vraies personnes autour de ce qu'on appelle cet objet très curieux du poème et qui est pourtant fondateur dans toutes les littératures et dans toutes les cultures. Donc, moi, c'est là-dessus que je sais pas de me battre contre les grands ensembles, mais quand, dans le privé ou dans tête-à-tête ou dans mon travail quotidien, je pense qu'une partie de mon travail, si on peut appeler ça comme ça, c'est convaincre les gens que la poésie est aussi écrite pour eux. Parce que beaucoup de gens pensent que la poésie, c'est éthéré, c'est dans l'espace, c'est des pelletons de nuages, mais j'emploierai la formule de Roberto Warros, la poésie crée de la réalité, et crée une plus grande réalité que la réalité. C'est pas la surréalité de Novalis, mais c'est une hyper-réalité en quelque sorte, et ça, je me sens très proche de cette pensée-là en quelque sorte.
Moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée ce soir. Alors, j'ai une petite fille, Laura, qui a 8 ans, et ce soir, elle a dit que « Oh, grand-maman va aller faire un spectacle! » Elle était très fière. Alors, on lui a dit « C'est de la poésie. » Fait que là, elle a décidé d'écrire tout de suite, elle a sorti « La neige fête Noël. » Puis là, on lui a dit « Bon, il faut que tu continues. » Elle a dit Oh non, si tu penses que je vais écrire un poème à 8 ans, ça va me prendre 1 heure. Alors voilà, je vous laisse là-dessus.
Alors, on voit au moins qu'il y a de la relève. Mais elle va peut-être écrire des haïkus comme sa grand-mère.
Oui, parce que on sent qu'elle ne peut pas écrire longtemps.
Alors, je voudrais simplement conclure en disant que il y a quand même, on sent un dynamisme autour des éditions du Norrois. On a eu l'occasion de le voir durant les fêtes du 40e. Ce dynamisme-là continue. Et il y a une complicité entre auteurs et entre lecteurs. On le voit ce soir, c'est très, très beau. Alors, je veux vous remercier d'avoir été là. Je veux te remercier, Céline, te remercier, Paul. Merci à la librairie Pauline qui nous reçoit si bien. Merci aussi à Radio Spirale qui est là pour enregistrer cette très belle soirée et au plaisir de vous revoir. Les livres des auteurs de Céline et de Paul sont derrière et vous pouvez prendre aussi un bulletin. Il y a des bulletins des éditions du Norrois, alors c'est gratuit, vous pouvez en prendre un en passant. Le directeur littéraire m'a dit que... Alors, merci, au revoir.
Merci.